vendredi 22 mars 2019, deuxième journée de démo pour le printemps. Et voici le quotidien des quotidiens, votre revue de presse. Omnubilant sujet à multiples facettes, multiples développements, le budget, le tout premier budget du gouvernement caquiste, on y reviendra abondamment durant l'émission. Je m'en excuse presque, voyez-vous, mais je commence en vous parlant, en vous faisant un peu de météo à partir d'un texte du Journal de Montréal. Une tempête printanière pour tester vos nerfs, ça nous vient de Vincent Larrain. Les nerfs des Québécois seront mis à rude épreuve aujourd'hui par une tempête printanière qui pourrait laisser une bonne quantité de slush à Montréal. Les précipitations devraient déjà avoir commencé au réveil et se poursuivre jusqu'à demain matin à certains endroits. Dans la grande région de Montréal, cela devrait commencer par de la pluie durant la nuit avant de se changer en neige au courant de la journée, a indiqué le météorologue Environnement Canada Michael Powers. C'est une de ces tempêtes de mars qui nous rappelle que l'hiver n'est pas terminé, que nous habitons toujours au Québec, ajoute-t-il à la blague. Il fait des blagues avec ça, lui. Eh ben oui, le printemps, 22 mars, c'est le temps de récapituler. Qu'est-ce qui s'est passé le 22 mars, Jean-Sébastien?
Ben 22 mars, moi j'ai peut-être l'explication du pourquoi nous avons une tempête aujourd'hui. Nous sommes la journée mondiale de l'eau, alors Dame Nature a choisi de souligner ça à sa façon.
Ben Dame Nature, elle peut prendre une pause.
Sinon, dans l'histoire, 22 mars, on peut parler de bien des choses. En 1312, le pape Clément V abolit l'ordre des Templiers. 1429, Jeanne d'Arc adresse une lettre aux Anglais. « Je suis venu de par Dieu, le roi du ciel, pour vous bouter hors de France. » En 1622, en Virginie, 350 colons sont tués lors du premier massacre d'Européens par des Autochtones en Amérique du Nord. En 1794, le Congrès américain interdit aux navires américains de transporter des esclaves vers d'autres pays. 1818, 22 mars, c'est le dimanche de Pâques le plus hâtif connu. Cela ne doit se reproduire à nouveau qu'en 2285. 85, donc de 1822 à 2285, plus de 400 ans avant que Pâques soit un 22 mars. Pourquoi?
Ce qui, si on suit la tendance actuelle, risque fort d'être un Pâques assez peu fréquenté.
et pourquoi souligne-t-on Pâques à des dates aléatoires comme ça, que s'il
Parce
peut avoir un écart
Pâques,
de 400 ans?
Pâques est fixé d'après la Lune, c'est le cycle lunaire qui détermine la date de Pâques.
Et non seulement le cycle lunaire, mais je me suis renseigné parce que, bon, la date de Pâques est fixée au premier dimanche après la première pleine lune qui suit le 21 mars. C'est déjà une explication, mais ce n'est pas simplement la lune observée, ce n'est pas seulement la lune, mais c'est la lune observée de mode ecclésiastique, c'est-à-dire qu'on parle d'un cycle où il y a 235 mois lunaires en 19 années solaires, ce qui veut dire qu'en 12 mois, en un an, il y a en réalité 12,3, donc 12 et un tiers, 12 mois lunaires et un tiers par année. Donc, c'est déjà une formule. J'ai tenté de voir les formules et c'est plus compliqué que ce qu'on nous apprend à l'école pour bien des choses.
Ce qui me fascine là-dedans, c'est de penser qu'il y a probablement un préposé au Vatican qui est une espèce de calendrier vaticaniste qui décide de ça.
Et ça prend vraiment soit une très bonne méthode ou une très bonne calculatrice pour pouvoir calculer ça. Alors moi, je ne peux qu'applaudir d'autres événements comme Noël ou l'Halloween qui tombent à date fixe d'année en année. On ajuste le jour du calendrier selon plutôt que d'y aller avec les cycles de la Lune ou encore les tempêtes solaires. Je reviens à cette chronique. Donc, 1895, 22 mars, première projection d'un film grâce au cinématographe par les Frères Lumière. 1929, des gardes-côtes américains coulent dans le golfe du Mexique la goélette I'm Alone, basée en Nouvelle-Écosse, qui transportait de l'alcool de contrebande. Alcool de contrebande, 1929, États-Unis, on est en pleine prohibition.
Oui.
Prohibition qui, 22 mars 1933, viendra à échéance, se terminera donc 4 ans plus tard.
Et les gens ne le réalisent pas, mais il a fallu une modification à la Constitution américaine pour introduire et extirper la prohibition. Donc, les votes des deux tiers des États, c'est un processus extrêmement compliqué.
1946, la Jordanie obtient son indépendance. 1963, 22 mars, le Fab Four, avant qu'ils soient le Fab Four, ben, ils étaient les Beatles, Fab Four étant un sobriquet qu'on leur a donné un petit peu plus tard. Ils obtiennent leur premier numéro 1 en Grande-Bretagne. François, est-ce qu'on risque avec un titre, un des premiers succès des Beatles? En numéro 1, pas seulement un des premiers succès, mais un des premiers numéro 1.
J'oserais même pas, c'était quoi?
Il s'agit de la pièce Please, Please Me. Oh. Qu'on aura le loisir d'entendre dans une dizaine de minutes comme première chanson à cette émission. 1972, j'y vais rapidement, à la prison de Saint-Jérôme, 3 ravisseurs et 6 captifs sortent après une prise d'otage qui remontait au 8 mars, 22 mars, 8 mars, prise d'otage qui a duré quand même plusieurs jours. 1960...
Ça a réussi, soit dit en passant, s'ils sont sortis.
Ben, c'est ce qu'on comprend. En 1979, la Ligue nationale de hockey admet en ses rangs 4 équipes de sa rivale, l'AMH. On parle des Oilers, des Whalers, des Jets et des Nordiques de ces 4 équipes. Je crois qu'il ne reste que les Oilers qui n'ont pas migré vers une autre ville et qui ont changé d'appellation. 1997, encore un 22 mars, 5 adeptes de l'Ordre du Temple solaire sont trouvés morts dans une maison incendiée à Saint-Casimir, dans le comté de Portneuf, près de Québec. Et en 2016, c'est un 22 mars, c'était il y a donc 3 ans, les kamikazes se font exploser à l'aéroport Zaventem et dans une station de métro à Bruxelles, en Belgique, faisant une trentaine de morts. 22 mars était également la date de naissance de l'écrivaine Gabrielle Roy, née au Manitoba en 1909. Et concluons avec ça également l'anniversaire de naissance du chanteur et compositeur, Roger Whittaker, né en 1936, connu pour bien des chansons en bien des langues, en français, en anglais, en allemand. Ici, je crois, en tout cas du moins pour ma propre personne, il est associé à un éléphant sur mon balcon.
Non, Le Pays Bleu.
Le Pays Bleu étant un autre de ses succès, et ce ne sera ni une ni l'autre de ses chansons que nous entendrons aujourd'hui, mais on va quand même se faire plaisir avec l'anniversaire de M. Whittaker.
Allez, avant d'aborder ce qui a déjà été publié depuis quelques heures, une nouvelle toute fraîche qui vient de tomber. Il y a un prêtre qui a été poignardé en pleine messe à l'oratoire Saint-Joseph, et ce, alors qu'il était filmé sur Internet. Voyez-vous, c'était donc diffusé sur Internet directement. La police détient un suspect. On ignore tout de ses motivations à l'heure où on se parle. Le suspect a été appréhendé par les services de sécurité de l'oratoire. Le prêtre, lui, s'en tire avec des blessures légères. Voilà. Dans la presse, et pour ne pas aborder le budget immédiatement, donc, dans la presse, il y a un sondage extraordinairement fantastique, très intéressant, qui a été publié, et Louise Leduc en a fait un article. Les Québécois, ni souverainistes, ni fédéralistes, selon un sondage. Plus nombreux que jamais à s'inquiéter pour la survie du français, les Québécois ne se définissent majoritairement ni comme souverainistes, ni comme fédéralistes. 6 instituts de recherche brossent le portrait de Québécois, mais aussi de Canadiens en général, qui s'identifient de plus en plus à leur province plutôt qu'au pays. Alors que la souveraineté est à l'origine un mouvement porté par les jeunes, à peine 18% des Québécois francophones de 18 à 24 ans se décrivent aujourd'hui comme souverainistes. En fait, ces jeunes Québécois semblent rejeter les deux pôles. 3 sur 4 affirment qu'ils ne sont ni franchement fédéralistes, ni franchement souverainistes. Ils se disent entre les deux, ou ni l'un ni l'autre. Tous âges confondus, 54% se disent entre les deux, ni l'un ni l'autre, ou ne savent pas. 23% des Québécois sondés se disent surtout fédéralistes, et une proportion identique se décrivent comme souverainistes. C'est entre autres ce qui ressort d'une étude commune de 6 instituts de recherche intitulée « La Confédération de demain, un sondage des Canadiens ». Au total, peut-on lire, 55% des Québécois sondés croient fortement ou assez fortement que l'idée de la souveraineté est aujourd'hui dépassée, une proportion qui a peu fluctué depuis le début du millénaire. Selon cette étude, la première d'une série de 3, les Québécois ne se retrouvent pas dans l'idée d'un Québec indépendant, mais ils ne semblent pas trouver davantage leur compte dans le Canada. Les Québécois ne sont pas plus susceptibles aujourd'hui qu'ils ne l'étaient au lendemain du référendum de 1995 de dire que leur province est traitée avec le respect qu'elle mérite au Canada, ou de croire que le fédéralisme canadien revêt plus d'avantages que de désavantages pour le Québec, est-il écrit. Ainsi, 46 % des Québécois sont très d'accord ou d'accord avec l'idée que le fédéralisme canadien a plus d'avantages que de désavantages. C'est toutefois plus qu'en Alberta et en Saskatchewan, où seulement 33 % des citoyens trouvent que le fédéralisme les sert bien. Un signe de l'accentuation récente du sentiment d'aliénation dans l'ouest du pays. Ce qui frappe Andrew Parkin, co-auteur de l'étude, c'est que la question nationale semble s'être évaporée, alors même qu'il n'y a eu aucune résolution du problème et que le ressentiment est toujours bien présent. La sociologue Claire Durand, spécialiste des sondages, rappelle pour sa part que les deux tiers des jeunes ont voté pour la coalition Avenir Québec ou Québec solidaire. Pour tous ceux qui ont voté pour Québec solidaire, la question importante, c'est l'environnement. Les Québécois se montrent dans l'étude plus inquiets que jamais par rapport à la survie de leur langue. Chez les Québécois francophones, 7 répondants sur 10 croient que la langue française est menacée, un bond de 10 points de pourcentage par rapport à 2001. Et cela est surprenant, dans la mesure où, habituellement, note-t-on dans le rapport, l'attrait de la souveraineté a toujours été fortement corrélé à l'inquiétude que l'on a pour la survie du français. Encore aujourd'hui, chez les Québécois, c'est « touche pas à ma langue », constate Alain G. Gagnon, co-auteur de l'étude et professeur de sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal. « J'ai le sentiment que le jour où la langue française serait de nouveau menacée, l'appui à la souveraineté pourrait de nouveau reprendre de la vigueur », poursuit M. Gagnon. Les Québécois paraissent faciles à être mobilisés autour de cet enjeu et il est surprenant que le Parti québécois et la CAQ ne misent pas là-dessus plutôt que sur des chartes de valeurs, dit-il. Selon Simon Landlois, professeur émérite de sociologie à l'Université Laval, le fait que Philippe Couillard ait été jugé si peu enthousiaste à défendre l'identité québécoise a sans doute contribué à sa défaite. De plus en plus, on note que les Québécois peuvent très bien ne pas être souverainistes, mais inquiets pour l'avenir de la langue, ajoute-t-il. D'autant que le débat sur l'immigration et sur l'intégration des nouveaux arrivants a toujours tendance à se cristalliser autour de la langue au Québec. Il reste que cette inquiétude par rapport à l'avenir du français est beaucoup plus vive chez les plus âgés. Au total, 73 % des Québécois francophones de 55 ans et plus se disent que la langue est un facteur important de leur identité. Chez les 18 à 24 ans, ils ne sont plus que 44 % à penser de la même façon. Pas moins de 71 % des Albertains disent que leur province n'est pas traitée avec le respect qu'elle mérite. Ils arrivent au premier rang des mécontents, suivis de près par les résidents de Terre-Neuve et Labrador, c'est l'autre province qui tire des grands revenus du pétrole. La grogne est aussi très élevée dans les territoires du Nord-Ouest, en Saskatchewan et au Manitoba. À cette question, les résultats au Québec s'apparentent à ceux du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse. Bon, on aura résisté à peu près 10 minutes. On parle un petit peu de budget. Marie-Ève Fournier nous signale 6 mesures annoncées dans le premier budget du ministre des Finances qui sortent du lot. Baisse de la taxe scolaire. Bonne nouvelle pour les propriétaires, la taxe scolaire diminuera dès le 1er juillet prochain dans toutes les régions du Québec, à l'exception des Laurentides où elle demeure stable. Québec va de l'avant avec sa promesse d'instaurer un taux unique basé sur le taux actuel le plus bas de la province, soit celui des Laurentides à 0,1054 $ d'évaluation. La baisse des factures sera graduelle d'ici 2024. Pour une maison de 270 000 $ valeur moyenne au Québec, les propriétaires auront à terme entre 69 et 500 $ de plus dans leur poche chaque année. Garde d'enfants, 182 $ de moins. Comme prévu, le gouvernement caquiste réduit le coût des services de garde subventionnés en abolissant progressivement la contribution additionnelle, celle qui est versée lors de la production de sa déclaration de revenus. Dès cette année, 40 000 familles ayant un revenu inférieur à 78 000 $ n'auront plus à la payer. Leur facture se limitera donc à 8,25 $ par jour, ce qui équivaut à un rabais de 182 $. Pension alimentaire moins pesante. Les sommes reçues en pension alimentaire pour enfants à charge pèseront moins lourd dans la balance pour les personnes ayant recours à différents programmes gouvernementaux, assistance sociale, aide financière aux études, aide au logement et aide juridique. Leur admissibilité étant déterminée en fonction de l'ensemble des revenus du ménage, la pension alimentaire peut parfois rendre une famille inadmissible à un programme. La bonification de l'exemption vise à mieux soutenir financièrement les familles à faible revenu. Rabais sur les voitures vertes, mais ceux qui envisagent l'achat d'une voiture électrique ou hybride rechargeable neuve pourront encore bénéficier du programme Rouler vert qui est prolongé. Par contre, ne seront plus admissibles à compter de l'an prochain, et ce tant pour les modèles neufs que d'occasion, l'aide financière, D'ici là, l'aide financière s'élève à 8 000 pour les véhicules neufs de moins de 75 000 et à 3 000 pour les plus luxueux. 250 $ pour les lunettes de fiston. À compter de septembre, la facture pour les lunettes ou les lentilles cornéennes prescrites à un enfant de 17 ans ou moins sera en partie payée par le gouvernement. Et plus payant de demeurer au travail après 60 ans. Québec tente de convaincre un plus grand nombre de personnes de 60 ans ou plus de rester sur le marché du travail. Pour y arriver, on fait passer de 61 ans à 60 ans l'âge d'admissibilité au crédit d'impôt pour les travailleurs d'expérience.
Peut-être pas le premier succès des Beatles, mais le premier qui s'est hissé en première position au Royaume-Uni en 1963, Please Please Me.
Merci Jean-Sébastien. On commence tout de suite dans les pages du devoir en vous parlant, devinez de quoi? Ben oui, du budget, mais en se servant des mots de Robert Dutrisac de son éditorial pour être plus précis. Les vertus de l'abondance. Le budget déposé par le ministre des Finances Éric Girard a confirmé que le gouvernement Legault dispose d'importantes marges de manœuvre qui lui permettent de tenir ses promesses. Mais l'argent ne peut pas tout acheter puisqu'il apparaît évident que certaines de ses lubies sont extrêmement difficiles à réaliser. C'est le cas de la maternelle 4 ans. En campagne électorale, la coalition Avenir Québec avait promis de créer 5000 classes de maternelle 4 ans dans son premier mandat. Or, le budget a confirmé qu'il se créera 250 de ces classes cette année, comme l'avait indiqué le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Jean-François Roberge, et seulement le même nombre l'an prochain. Le rythme doit s'accélérer au cours des deux dernières années du mandat, mais à l'aube des élections, en 2022-2023, le gouvernement caquiste ne sera parvenu à ouvrir que 2000 classes. Pour ceux qui s'opposent à ce projet de maternelle 4 ans, universel mais non obligatoire, c'est sans doute une bonne nouvelle puisque les conséquences néfastes sur les services de garde subventionnés seront atténuées. C'est le budget de l'abondance. Après avoir engagé 800 millions lors de la mise à jour économique et financière de l'automne, notamment avec un relèvement partiel de l'allocation familiale et un crédit d'impôt pour les aînés, le budget Girard y va de nouveaux engagements de 2,3 milliards pour l'exercice, pour un total de 3,1 milliards. C'est presque autant que les 3,7 milliards que la prodigalité électorale des libéraux avait décaissé pour leur baroud d'honneur. Le budget Girard n'est pas aussi éparpillé. Et il est aussi prudent, puisque les mesures les plus coûteuses, comme la parité des allocations familiales pour les premiers enfants et pour les suivants, l'abolition de la contribution additionnelle pour les services de garde, ainsi que l'uniformisation des taxes scolaires, sont étalées dans le temps. Si cette uniformisation des taxes est régressive, puisqu'elle favorise les mieux nantis, les sociétés immobilières et les industries, le gouvernement Legault se rattrape avec une mesure qui relève non seulement du bon sens, mais de la simple justice sociale. Il augmente la part des pensions alimentaires pour enfants qui ne sera pas déduite des prestations d'aide sociale ou des bourses des étudiants. C'est un pas dans la bonne direction. Le gouvernement Legault a dit qu'il ferait de l'éducation une priorité et le budget traduit cet engagement. Il prévoit une hausse des dépenses pour assurer un seuil minimal de services professionnels pour les élèves, ajouter une heure d'activité parascolaire de plus par jour et procéder au dépistage des difficultés d'apprentissage avant l'âge de 5 ans. En santé, la priorité est la bonne, c'est-à-dire le maintien à domicile des personnes âgées. Des sommes sont aussi prévues pour l'embauche d'infirmières et de préposés aux bénéficiaires. Or, le réseau de la santé, comme celui de l'éducation d'ailleurs, éprouve des difficultés de recrutement. Le budget prévoit des embauches dans les réseaux de l'éducation et de la santé, mais on a déjà de la difficulté à pourvoir les postes offerts. Aussi, le gouvernement Legault mise sur le retour à temps partiel des retraités de 60 ans et plus du marché du travail et le budget Girard leur offre une baisse d'impôts pouvant s'élever jusqu'à 1 500 $ par an. Reste à savoir si cette mesure aura un impact significatif. Sur le plan économique, Éric Girard présente des orientations volontaires assorties de mesures de stimulation des investissements privés et d'accroissement des bassins de main-d'œuvre, notamment par l'immigration. Le capital propre d'Investissement Québec est augmenté d'un milliard ou de 20 %. Le gouvernement réserve aussi un milliard pour le maintien au Québec de sièges sociaux et pour assurer le développement d'entreprises stratégiques. En environnement, talon d'Achille du gouvernement, le budget Girard reconduit des mesures introduites sous les libéraux, mais nous informe qu'une approche bonifiée est en cours d'élaboration sous la gouverne du premier ministre. On est donc en mode rattrapage. Michel David, lui, parle également de budget dans sa chronique « Le pays de Cocagne », histoire de remettre les choses en perspective. S'il y a une chose que le Parti du changement n'a pas changé, c'est l'autocongratulation pour tout ce qui va bien et le rejet de la responsabilité de tout ce qui va mal sur l'ancien gouvernement. Depuis 40 ans, jamais un gouvernement du Québec n'avait hérité d'une situation financière aussi avantageuse que celui de François Legault. Il ne fallait évidemment pas s'attendre à ce que le ministre des Finances, Éric Girard, remercie les libéraux d'avoir fait le sale travail à sa place, mais il aurait pu s'abstenir de faire le grand écart pour manifester sa reconnaissance à Lucien Bouchard, ce grand premier ministre qui a eu le courage de changer le cap budgétaire du Québec, mais dont le plus grand mérite est peut-être d'être le mentor de l'actuel premier ministre. Il est vrai que M. Bouchard avait réussi à entraîner le Québec tout entier dans sa quête du déficit zéro, ce qui a fait éclater la coalition qui avait presque permis au oui de l'emporter en 1995 et ouvert la voie à la création de Québec solidaire. 20 ans après sa croisade, M. Girard clame sa fierté d'engager le Québec sur le chemin de l'autonomie financière au sein du Canada. Les années Bouchard n'étaient plus qu'un lointain souvenir en 2014 quand le gouvernement Couillard a hérité d'un sérieux déficit. Certes, il en a exagéré l'importance, comme il a trop forcé sur l'austérité par la suite, mais la CAQ ne pourrait pas donner l'impression de conduire le Québec vers le pays de Cocagne sans les douloureuses compressions budgétaires dont le PLQ a payé le prix le 1er octobre dernier. Tiens, puisqu'il y a relativement peu de choses en matière d'environnement dans le budget, on va laisser Alexandre Shield commenter. Québec promet d'accélérer les réductions de gaz à effet de serre. Aux prises avec le retard du Québec en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, le gouvernement caquiste espère accélérer la transition énergétique en misant sur des mesures qui ciblent le secteur industriel et celui des transports, les deux principaux émetteurs de la province. On promet aussi de présenter sous peu une approche bonifiée de lutte contre les changements climatiques. Le gouvernement s'inscrit dans la continuité des libéraux en prolongeant le programme Rouler vert qui finance le rabais à l'acquisition pour les voitures électriques ou hybrides. Le budget prévoit ainsi 434 millions sur 2 ans afin d'ajouter, espère-t-on, 66 000 véhicules électriques sur les routes du Québec, mais aussi des bornes de recharge à domicile et en milieu de travail. Avec ces investissements, l'objectif de 100 000 voitures électriques sur un parc automobile de près de 5 millions de véhicules, fixé par le gouvernement Couillard, devrait être atteint d'ici 2 ans. Qui plus est, le plan budgétaire évoque déjà la prolongation du programme au-delà de 2021. Autre gagnant de ce budget, le secteur de la culture, ce que rappelle Guillaume Bourgault-Côté. Québec renchérit en culture. Souvent qualifié d'angle mort du discours caquiste, la culture profite elle aussi de la générosité du premier budget Girard. Près de 300 millions supplémentaires seront ainsi investis dans ce secteur d'ici 5 ans, promet le gouvernement Legault. La culture est source de fierté et un important moteur économique, a soutenu le ministre des Finances en conférence de presse. Ainsi, Québec consacrera 1,3% de son budget 2019-2020 au secteur culturel, soit près de 1,3 milliard. Le dernier budget de l'État avait pour sa part octroyé 1,2 milliard au même secteur en 2018-2019. Allez, on parle maintenant d'autre chose que du budget. Les ententes de réparation sont populaires et payantes, nous signale Hélène Buzetti à Ottawa. Alors que la classe politique canadienne se déchire sur la pertinence de négocier avec SNC-Lavalin un accord de réparation plutôt que de déposer des accusations criminelles, l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, indique dans une nouvelle étude que ces accords sont devenus monnaie courante ailleurs dans le monde. Les cas de corruption internationale sont maintenant très majoritairement traités par des mécanismes non judiciaires. Et au final, les entreprises écopent de pénalités beaucoup plus salées. Quelques secondes encore pour vous signaler que l'ex-présidente du Conseil du Trésor à Ottawa, Jane Philpott, fait encore des siennes au sein du caucus libéral. Elle a fait une sortie estimant que son ex-collègue du cabinet, Jody Wilson-Raybould, avait encore des choses à dire et qu'on devrait lui permettre de les dire, rejoignant en cela le chef conservateur. Une pause et on se retrouve avec le Journal de Montréal et le budget.
Chez vous, c'est comme chez nous. Y a juste les meubles qui changent. On a nos couleurs préférées. Mon bout, c'est comme ton bout. Y a personne qui perd au change. On a nos jouets préférés. Et chez nous, c'est chez vous. Chez vous, c'est chez nous aussi. Aussi. Et chez nous, c'est chez vous. Chez vous, c'est chez nous aussi. Aussi. L'amour, c'est plus fort que tout. Ça passe au travers des craques. Ça cache du vent et du froid. No. en a pour les fins, pour les fous. Il y en a où on regarde jamais. Je t'assure qu'il y en a un peu chez nous. Et chez nous, c'est chez vous. Chez vous, c'est chez nous aussi. Aussi. Chez nous, c'est chez vous. Chez vous, c'est chez nous aussi.
Gilles Valiquette qui nous ouvrait grand la porte de chez lui, chez nous, c'est chez vous.
Et c'est le moment où l'on aborde le Journal de Montréal et ce qui n'était pas dans le budget, voyez-vous. Le cadre financier de la CAQ avant les élections prévoyait 22 millions de dollars qui seraient alloués en 2019-2020 pour aider les parents d'enfants gravement malades ou handicapés. Donc, à affronter les dépenses additionnelles encourues. Or, ça n'était pas dans le budget. Par contre, voyez-vous, les 325 millions de dollars pour le troisième lien, eux, sont dans le budget. Il s'agit de la somme engagée pour faire les études de faisabilité. On n'est plus au stade de décider si c'est opportun ou pas. On a décidé qu'on franchissait cette étape-là, alors qu'on ne l'a pas fait pour les parents d'enfants handicapés. Ça inspire un éditorial à José Legault. Je ne résiste pas à vous le lire. Un budget presque pour tous. Avec le premier budget de l'arcaquiste, le premier ministre François Legault savait qu'il devait marquer l'imaginaire des Québécois. Fidèle à la plupart de ses engagements, son bouquet d'offrandes ne rate pas le coche. Après les dures années d'austérité libérale, les nouvelles sommes promises en éducation, santé, soins à domicile, francisation des immigrants aux proches aidants et aux aînés étaient longuement attendues. Aux antipodes de l'ère Couillard, elles témoignent d'une attention réelle portée au bien commun. En cela, la CAQ se défait clairement de son étiquette de parti de centre-droit. Le véritable message politique lancé par son premier budget, il est là. Après les années Charest et Couillard, nous assistons à un virage majeur en politique publique. Pour les partis d'opposition, c'est à méditer. Bien sûr, il restera à voir si ces nouvelles sommes suffiront à remettre sur pied un réseau d'écoles publiques durement malmené et vampirisé par le réseau privé subventionné. L'urgence est nationale. En santé, le tandem Couillard-Barrette a durement déglingué le système public. C'est même à se demander combien de temps il faudra pour leur dresser, si tant est que ce soit faisable, d'autant plus que nous sommes aussi en pénurie de main-d'œuvre. Le Québec étant une société vieillissante, le temps court pour agir. Ce budget compte pourtant des oubliés parmi les plus vulnérables, les personnes déficientes intellectuelles majeures et leurs familles naturelles, parents ou fratries adultes. En pleine semaine québécoise de la déficience intellectuelle, force est de le noter. Le budget bonifie certes l'aide financière aux parents d'enfants déficients mineurs. Or, pour le moment, les enfants déficients adultes vivant dans leur famille continuent de n'avoir droit qu'à l'aide sociale. En campagne, la CAQ s'était pourtant engagée à établir un équilibre entre l'aide financière versée aux familles naturelles par rapport aux familles d'accueil, que l'enfant handicapé soit mineur ou majeur. Les familles d'accueil recevant par résident quelques dizaines de milliers de dollars par année de plus que les familles naturelles avec cet équilibre, ces dernières pourraient enfin tenir le coup. Car il faut savoir qu'en avançant en âge, les besoins des personnes déficientes augmentent, idem pour l'épuisement de leurs familles naturelles. En fait, c'est tout le réseau de la déficience intellectuelle qui, gravement abandonné depuis des années, mérite une révolution culturelle et financière basée sur la bienveillance et le mieux-être, y compris en encourageant aussi les ressources d'hébergement pour celles qui, parmi les autres, offrent vraiment un milieu de vie de qualité. Avec son premier budget, M. Legault montre qu'il comprend la nécessité de ramener une plus grande justice sociale dans les services publics. Au gouvernement, on chercherait donc d'autres moyens pour mieux aider ces familles naturelles en détresse, dont de nombreuses femmes. Là aussi, le temps court. Trop de familles d'enfants handicapés adultes sont à bout de souffle. Je le sais, j'en suis une parmi tant d'autres. Que leur voix fatiguée de crier dans le désert soit enfin entendue. La semaine dernière, à peu près à cette heure-ci, je vous faisais part de cette terrible nouvelle d'un massacre en Nouvelle-Zélande. Si à toute chose, malheur est bon, dans ce cas-ci, le drame aura fait émerger une personnalité politique que le monde entier aura appris à aimer, et en une semaine seulement, voyez où on en est en Nouvelle-Zélande. Des centaines de Néo-Zélandais contactent la police pour rendre leurs armes. Christchurch, Nouvelle-Zélande. Des centaines de Néo-Zélandais ont entamé les démarches pour rendre leurs armes dans la foulée de l'interdiction de la vente des fusils d'assaut et armes semi-automatiques en réponse à la double tuerie des mosquées de Christchurch, a annoncé vendredi la police. Celle-ci a également déploré un grand nombre de fausses déclarations de restitution d'armes sur son site Internet. Il y a des trolls partout. La première ministre Jacinda Ardern a annoncé jeudi l'interdiction de la vente de fusils d'assaut et d'armes semi-automatiques. 50 fidèles ont été abattus il y a près d'une semaine par un suprémaciste blanc australien dans deux mosquées de Christchurch, la plus grande ville de l'île du Sud. Un massacre qu'il a filmé et diffusé en direct sur Facebook. Immédiatement après le carnage, Mme Ardern avait annoncé un durcissement d'une législation qui avait permis aux tueurs d'acheter en toute légalité l'arsenal ayant servi à l'attaque, y compris des armes semi-automatiques. Pour résumer, chaque type d'arme semi-automatique utilisée dans l'attaque terroriste de vendredi sera interdit dans ce pays, a déclaré Mme Ardern. L'interdiction de vendre ces armes est entrée en vigueur jeudi à 15h et une période a été décrétée pour la restitution des armes. La chef du gouvernement a annoncé un programme de rachat pour un coût estimé entre 100 et 200 millions de dollars néo-zélandais. Il y aura une période d'amnistie, mais toute personne qui n'aura pas rendu ses armes dans les délais s'exposera à des demandes allant jusqu'à 4 000 $ néo-zélandais, soit 2 430 euros, et 3 ans de prison. Et voyez ce que ça donne quand même quand il y a une volonté politique de changer les choses. Ici, on est combien d'années après Polytechnique maintenant, 30 ans? Allez, on fait presque du service après-vente de nouvelles ici. Michael Nguyen nous parle de cette fraudeuse. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était une assistante sociale qui avait réussi à faire interdire quelqu'un dont elle avait le mandat de s'occuper et qui avait ensuite avait spolié sa fortune. La pauvre vieille dame s'était échappée de la résidence où on l'avait enfermée et on l'avait retrouvée avec sa marchette en robe de chambre. C'est la police qui l'avait ramassée. Finalement, on avait découvert toute l'histoire. Une fraudeuse sans scrupules qui a dépouillé une aînée de près d'un demi-million n'a pas réussi à obtenir la clémence du tribunal une seconde fois, si bien qu'elle devra purger 6 mois de prison pour avoir brisé ses conditions. Sa malhonnêteté, ses tromperies continuelles en disent beaucoup sur elle, a affirmé le juge Denis Galiatsatos jeudi en refusant de donner une deuxième chance à Anita Obodzinski. Obodzinski, 54 ans, s'en était sortie à bon compte l'année passée lorsqu'elle avait écopé de 2 ans de prison à domicile pour son crime, qualifié de répugnant par le magistrat. C'est qu'avec l'aide de son mari, d'un avocat et d'un médecin, elle avait réussi à devenir la mandataire d'une dame de 89 ans, Véronica Piella. Déclarée inapte, même si elle avait toute sa tête, Mme Piella était placée de force tandis qu'Obodzinski siphonnait ses économies. La victime est décédée, a rappelé le magistrat. Ça brise le cœur de penser à toute l'agonie qu'elle a vécue dans les dernières années de sa vie, tout ça à cause de l'impitoyable égoïsme de la fraudeuse. Mais même si elle savait s'en être bien sortie, Obodzinski n'a pas semblé prendre au sérieux sa détention à domicile. À plusieurs reprises, elle a refusé de répondre à son agent de probation malgré l'ordre de la cour. Après avoir été déclarée coupable de bris, elle avait réussi à négocier un accord avec la couronne qui lui éviterait la prison, mais le juge a mis son poing sur la table, expliquant que la suggestion était inacceptable. Obodzinski a ensuite imploré le magistrat de lui épargner l'incarcération en affirmant être seule à nourrir sa famille. C'est aussi elle qui conduit sa fille à l'école et à ses cours d'équitation les samedis. Sa fille ne peut pas être une porte de sortie. Prendre le transport en commun pour aller à l'école n'est ni cruel ni inhabituel, a conclu le magistrat en rappelant qu'une peine à purger à domicile n'était pas à prendre à la légère. Allez, sortie de Donald Trump. On n'avait pas parlé de Donald encore cette semaine. On le fait, voilà. Trump plaide pour la reconnaissance de la souveraineté d'Israël sur le Golan. Le président des États-Unis, Donald Trump, s'est déclaré jeudi favorable à la reconnaissance de la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan, une décision en rupture avec la position américaine depuis des décennies sur ce sujet sensible. Israël a conquis une grande partie du Golan, soit 1200 km², lors de la guerre des Six Jours en 1967 et l'a annexée en 1981. Un petit peu comme les Russes ont annexé une partie de l'Ukraine ou la Crimée, voyez-vous. Mais la communauté internationale n'a jamais reconnu cette annexion. Après 52 ans, il est temps pour les États-Unis de reconnaître pleinement la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan, qui a une importance stratégique pour l'État d'Israël et la stabilité régionale, a tweeté le président américain au moment même où le chef de la diplomatie Mike Pompeo se trouvait à Jérusalem. À l'approche des élections législatives du 9 avril, cette annonce est un véritable coup de pouce pour M. Netanyahou qui réclame cette reconnaissance avec insistance et est attendu à la Maison-Blanche en début de semaine prochaine. « Merci, président Trump », a-t-il tweeté immédiatement après l'annonce de l'ancien homme d'affaires new-yorkais dont il a loué le « courage ». Au pouvoir depuis une décennie, M. Netanyahou met inlassablement en avant sa relation privilégiée avec le locataire de la Maison-Blanche et se sert d'arguments dans la campagne, présentant des gains israéliens comme des succès personnels dont ses concurrents seraient incapables. Fin 2017, Donald Trump, qui affiche un soutien à toute épreuve envers Israël, a unilatéralement reconnu Jérusalem comme capitale de ce proche allié, allant à l'encontre de la diplomatie traditionnelle américaine et du consensus international aux grandes dames, notamment des dirigeants palestiniens.
Chemin grand ouvert. On sait très bien qu'il ne
C'était la formation Comme dans un film, une collaboration entre Isabelle Blais notamment et Pierre-Luc Briand, qui ne font pas qu'une collaboration musicale, mais qui vivent ensemble. Ils ont sorti un album en duo il y a 3 ans. Ils viennent de sortir un album accompagné d'un groupe au complet. Donc, Comme dans un film, Le Soleil aussi, tiré de l'album La Lune est passée par ici.
Et puisqu'on parle du soleil, presse régionale, Le Soleil de Québec, et on vous parle, eh bien oui, je sais, le lien est un peu facile, le lien est un tout petit peu facile. Bon, alors on va le prendre à l'envers, absence de soleil, froid, hiver, ski de fond, Alex Harvey qui prend sa retraite. Voilà, c'est le sujet du texte, Alex Harvey veut terminer sa carrière de belle façon à la maison, Carl Tardif. Il a écrit de grands chapitres de l'histoire du ski de fond au Canada. Il ne reste plus qu'à rédiger, oui, l'épilogue de sa carrière. Même à l'approche de sa retraite, Alex Harvey se permet encore de rêver. De la fenêtre de sa chambre d'hôtel qu'on lui a réservée pour la semaine, le héros local y possède une très belle vue sur le parcours des plaines d'Abraham où il disputera ses 3 dernières courses dans le cadre des finales de la Coupe du monde de ski de fond vendredi, samedi et dimanche. En fermant les yeux, il y revoit les grands moments de sa carrière, mais il s'imagine aussi la conclusion. « Mon rêve est de terminer avec un autre podium à la maison. Je suis nostalgique, il y a plein d'images qui me reviennent en tête, il y a plein d'émotions, mais en même temps, je suis dans un état d'esprit combatif. Je veux bien faire, je veux me battre pour le podium », affirmait Harvey jeudi après-midi en marge de la conférence de presse officielle de l'événement. Il a passé les derniers jours chez lui à Saint-Féréol-des-Neiges avant de s'amener à l'hôtel mercredi en fin de journée. Comme tous les participants, il s'est entraîné sur le parcours jeudi matin, mais il n'avait pas à y faire de visualisation. Après avoir remporté l'épreuve de sprint en 2017, il se doute bien que de ce qui l'attend s'il franchissait le fil d'arrivée avant les autres. En 2017, j'aurais pu donner des high-fives pendant 1 heure, mais je ne l'ai pas fait. On entend notre nom, le bruit nous élève, mais je dois rester dans ma bulle. Je veux faire un bon show, mais pour ça, je ne dois pas y penser. Je vais faire les choses comme si j'étais dans le nord de la Finlande, ajoutait la tête d'affiche du week-end. C'était dans à peu près tous les journaux de la province. Je choisis pour vous en parler les pages de la Tribune. Les autobus de la Société de transport de Sherbrooke, ou plutôt des autobus de la Société de transport de Sherbrooke, restent au garage, mais c'est la même chose un peu partout, vous allez le voir. Les sociétés de transport en commun doivent immobiliser près de 600 autobus à travers le Québec en raison du constat d'un problème technique, a indiqué jeudi l'Association du transport urbain du Québec. Le manufacturier Novabus a demandé de procéder à une inspection rapide des autobus après avoir constaté un problème technique touchant la servo-direction d'autobus hybride livré entre 2016 et 2019 aux 9 sociétés membres de l'association. Face à cette situation, les sociétés touchées ont dû remanier leurs offres de services pour vendredi, a affirmé l'association par communiqué invitant les usagers des transports en commun à consulter les sites Internet des sociétés. Jeudi soir, le réseau de transport de Longueuil confirmait qu'il y aurait un impact sur le service offert aux usagers dès vendredi matin. À Québec, le réseau de transport de la capitale disait retirer temporairement 81 autobus hybrides de la route et indiquait qu'il pourrait y avoir plusieurs départs annulés. Il y aura 285 de ces autobus à la Société de transport de Montréal. L'Outaouais, Laval, Trois-Rivières, Lévis, Saguenay et Sherbrooke sont aussi touchés. Vendredi matin, la Société de transport de Laval a toutefois fait savoir que le service d'autobus serait maintenu à la normale car des équipes à pied d'œuvre dès jeudi soir ont procédé à temps aux inspections nécessaires pour que ces autobus puissent assurer un service régulier et sécuritaire. Toujours dans le soleil, Sébastien Saint-Onge, lui, s'est intéressé à 3 mesures du budget, des mesures ciblées. D'abord, on parle d'aide à la presse écrite. Les médias de la presse écrite n'ont pas été oubliés dans ce premier budget de l'ère caquiste. En effet, le gouvernement consent une subvention de 3 millions à l'organisme Recycle Média qui évalue le montant de la taxe que les journaux doivent débourser pour recycler son papier. Ainsi, on évalue à 7,3 millions de dollars la somme que la presse écrite devrait investir dans le recyclage. Additionné aux 3,5 millions octroyés par le gouvernement de Philippe Couillard, les 3 millions consentis par la CAQ permettront aux entreprises de la presse écrite de se partager un montant réduit de 820 000 $ pour l'année 2019-2020. Subvention non récurrente qui sera réévaluée l'an prochain, la taxe n'étant pas abolie. Un coup de pouce pour les restaurateurs. Le secteur des restaurations et hôtelleries pourra souffler un peu dans la prochaine année, alors que le gouvernement prévoit une aide bonifiant le crédit d'impôt relatif à la déclaration des pourboires. Préoccupé par l'importante pénurie de main-d'œuvre qui affecte ces secteurs, la CAQ permet ainsi de réduire la taxe sur la masse salariale que l'employeur doit débourser sur le salaire et les pourboires de ses employés. À cet effet, les indemnités attribuables à des pourboires payés par les employeurs pour des absences en raison d'allocations familiales ou pour des raisons de santé, d'obligations familiales ou des raisons de santé, oui, seront ajoutées aux dépenses admissibles donnant droit au crédit d'impôt. Par ailleurs, dans sa volonté de valoriser la profession enseignante, le gouvernement a annoncé dans son budget qu'il investira près de 80 millions sur 5 ans pour offrir des bourses d'excellence aux futurs enseignants. Bon, j'aurais voulu vous en parler la semaine dernière au moment où ils l'ont annoncé, mais il y a deux aventuriers de Trois-Rivières qui se proposent de monter sur un morceau de glace et de descendre le fleuve avec ce qu'ils appellent la banquise. Ça s'appelle d'ailleurs l'opération banquise. Aujourd'hui, on a la réaction de la garde côtière qui, voyez-vous, est pas très très favorable au projet. Marie-Ève Lafontaine en parle dans les pages du Nouvelliste. La garde côtière canadienne a recommandé à l'aventurier Frédéric Dion et à ses deux acolytes Jacob Racine et Daniel Barriot de renoncer à leur projet qui consiste à parcourir la distance entre Trois-Rivières et Québec sur une banquise. Elle qualifie ce défi de dangereux et estime qu'il risque d'entraîner plusieurs conséquences fâcheuses. L'opération banquise prévue les 28 et 29 mars prochains n'est pas une activité autorisée par la garde côtière canadienne. La possibilité de conditions météorologiques difficiles, la température de l'eau, la force du courant, la présence d'autres navires et les marées sont des éléments qui constituent d'importants facteurs de risque pour les participants. La garde côtière, dont une des raisons d'être est la sauvegarde de la vie humaine en mer, ne peut donc pas recommander la tenue de telles activités foncièrement dangereuses. La garde côtière n'a toutefois pas le pouvoir d'interdire ce type d'activité, a expliqué l'organisme au Nouvelliste par courriel. Les trois aventuriers ont avisé la garde côtière de leurs intentions. Cette dernière leur a recommandé de s'abstenir de mener à terme ce projet en raison de diverses raisons de sécurité énoncées plus haut. Une position qui est loin d'ébranler Frédéric Dion. Ils nous ont fortement déconseillé de le faire, comme nous on déconseille fortement à quiconque d'essayer ça. Comme moi, je déconseillerais à tout le monde d'aller traverser l'Atlantique en solo. C'est dangereux, faites pas ça, laisse-t-il tomber. On est des professionnels. J'ai été dans la marine, j'ai navigué le fleuve. Jacob, c'est un professionnel de la gestion de la sécurité pour les tournages de télévision. Même chose pour Dan. Donc, à nous trois, on cumule l'équivalent de 20 ans d'expérience dans ce genre de situation. On a un plan de mesures d'urgence qui leur a été communiqué. Il faudrait peut-être aussi le communiquer au cargo qui va être sur le fleuve et qui éventuellement va légèrement cogner leur morceau de glace au passage. Mais enfin, on leur souhaite bonne chance. Presse canadienne au retour. Restez là!
Pour m'aider à voir, je veux noir, cire de l'eau, pour blanchir mon cerveau, l'appareil est branché dans mon dos, et brûle dans ma peau. S'il fallait que tu te réveilles, me sens devenir étranger. Je sais pas si c'est triste ou drôle. C'est comme si je perdais le contrôle. Qu'est-ce que j'ai là, ces épaules? Qu'est-ce qui me fait changer de rôle? Y'a de sauter des pieds des airs. Je vais me retrouver comme un fou. suis tombé par terre, au milieu des gens qui n'ont rien remarqué. Si je pouvais me reprendre, avec un peu de chance, je pourrais m'arranger pour tomber ces deux pieds. Se faire voir être sourd pour une heure, je voudrais m'entendre le cœur. Le sommeil était mon seul silence. Je suis moins seul quand j'y pense. S'il fallait que je me réveille, comme Alice dans ses merveilles, à fixer mes céréales comme une vieille boule de cristal. Je sais pas si c'est bleu. Au fond d'un diamant, plus je suis petit, plus c'est grand. Je veux me retrouver dedans. Je vais passer à travers. Je veux me retrouver comme un fou sur la terre. Comme un fou, tout est si clair.
Mais la pièce Comme un fou, version légèrement retouchée, version remasterisée tirée de l'album Leptad XL, donc une nouvelle version de l'album Heptad qui est sortie il y a, je crois, environ 2 ans de cela.
On passe immédiatement donc aux colonnes de la presse canadienne, plus particulièrement à celle de L'Aquilon. L'Aquilon qui est le journal francophone des territoires du Nord-Ouest où Denis Laure, à l'invitation d'une rédactrice en chef invitée, Angélique Rusindanda Omuniana, se penche sur l'intégration des communautés culturelles dans les communautés autochtones. Ça donne un texte très intéressant qu'on n'aura malheureusement pas le temps de lire au complet. Vers un espace interculturel où les immigrants et les Autochtones puissent se connaître. Quel rôle peuvent jouer les immigrants dans la réconciliation avec les peuples autochtones? C'est la question que la chroniqueuse de L'Aquilon, Angélique Rusindanda Omuniana, a posée à l'écrivaine et conseillère de la Première Nation des Yolanives d'Aîné, Catherine Lafferty, lors d'une rencontre informelle le 16 mars dernier. Citoyenne canadienne depuis 15 ans, Mme Rusindanda Omuniana est une ancienne chercheuse scientifique originaire du Rwanda, un pays qui a lui aussi beaucoup souffert de la colonisation. Les immigrants ne savent pas grand-chose des Autochtones, explique Mme Rusindanda Omuniana à Mme Lafferty. Quand tu arrives à l'examen pour la citoyenneté, la trousse pour t'éduquer sur l'histoire canadienne ne comprend peut-être qu'une ligne et une question sur les Autochtones. C'était l'expérience de la rédactrice. Aujourd'hui, le guide « Découvrir le Canada » contient une trentaine de lignes sur les Autochtones et est explicite sur le non-respect des traités, la misère et la maltraitance dans les pensionnats. Tout de même, les appels à l'action 93 et 94 de la Commission Vérité et Réconciliation demandent au gouvernement fédéral de mettre à jour sa trousse d'informations aux nouveaux arrivants pour refléter davantage la diversité des peuples autochtones du Canada et d'inclure le respect des traités dans le serment de citoyenneté. Formulées en 2015, ces recommandations restent encore aujourd'hui à mettre en pratique, observe Mme Rusindanda Omuniana. Le premier lieu d'établissement de Mme Rusindanda Omuniana dans les cantons de l'Est, loin des communautés autochtones, a également un temps contribué à sa méconnaissance des Autochtones. Le traitement réservé aux Autochtones est ce qu'on appelle le secret sale du Canada, explique Catherine Lafferty. Nous avons été balayés sous le tapis en espérant que nous disparaissions, dit-elle, mais nous ne disparaîtrons pas. Nous avons eu confiance que les traités seraient respectés, mais ça n'a pas été le cas, alors nous frappons le poing sur la table. C'est pour ça que nous avons besoin d'alliés. L'auteur de Norton Wildflower trouve légitime que les immigrants puissent refaire leur vie au Canada et aient accès à de bons programmes d'intégration. Elle souhaite vivement, par contre, qu'ils comprennent et appuient les Autochtones. Pour cela, il faut que les immigrants soient informés. Ils viennent ici et n'ont aucune idée de ce qui est arrivé aux Autochtones, constate Mme Lafferty. Ils pensent que tout est correct et que le Canada est le meilleur pays au monde. Il faut qu'ils aient une formation. Il importe qu'ils fassent partie de la solution. Ils peuvent comprendre parce qu'ils sont passés par là. Le rempart de Windsor s'intéresse quant à lui aux réformes majeures en éducation annoncées par le gouvernement ontarien. L'Ontario augmente le nombre d'élèves dans les classes de niveau secondaire et présente un nouveau programme d'éducation à la sexualité qui permettra le retour à l'enseignement de l'identité de genre et du consentement dès cet automne. Le gouvernement progressiste conservateur implante également un nouveau programme de mathématiques, interdit officiellement les téléphones portables dans les classes et entreprend de réviser le processus d'embauche des enseignants dans le cadre de sa réforme de l'éducation annoncée vendredi. Notre plan va moderniser les salles de classe, protéger l'avenir de notre système d'éducation et faire en sorte que les étudiants ontariens développent les compétences dont ils ont besoin pour se bâtir une vie, une famille et créer des entreprises prospères, a déclaré la ministre de l'Éducation, Lisa Thompson, lors d'une conférence de presse à Toronto. Le gouvernement mène des consultations depuis janvier concernant la taille des classes et les processus d'embauche des enseignants. Il demande notamment si la taille limite stricte des classes doit demeurer. Vendredi, la province a annoncé qu'elle allait augmenter la limite du nombre d'élèves par classe au niveau secondaire, passant de 22 à 28. Les écoles secondaires ontariennes ont actuellement l'un des ratios élèves-enseignants les plus bas au pays et la croissance des groupes va s'effectuer graduellement sur 4 ans. Aucun enseignant, pas un, ne va perdre son emploi à cause de notre stratégie sur la taille des classes, a déclaré Mme Thompson, sans toutefois préciser si la province allait miser sur l'attrition pour réduire ses coûts. L'augmentation des ratios d'élèves par classe n'affecte pas les niveaux maternels et primaires. Le nouveau programme d'éducation sexuelle vient remplacer le cours provisoire imposé à la suite de l'élection du Parti progressiste conservateur qui était basé sur du contenu datant de 1998. Les conservateurs s'opposaient au programme mis en place par les libéraux en 2015 qui traitait du consentement, de l'intimidation en ligne, du sextage, des relations homosexuelles et de l'identité de genre. Selon le gouvernement, le nouveau cours d'éducation sexuelle va aborder la notion de consentement en deuxième et troisième année du secondaire. Puis, l'identité et la diversité du genre seront discutés en huitième année. Les thèmes de l'abstinence, de l'image corporelle et de la consommation de cannabis figureront également au cursus. Les parents auront toujours la possibilité de choisir de ne pas exposer leurs enfants à certains thèmes abordés dans le cours d'éducation à la sexualité. Le ministère va publier en ligne des modules afin de guider les parents qui souhaitent discuter de sexualité avec leurs adolescents à la maison. Tout le curriculum doit être publié en mai et enseigné dans les écoles en septembre. Le programme d'enseignement révisé sur l'histoire des Premières Nations, des Métis et des Inuits, élaboré en collaboration avec les membres des communautés autochtones, sera dévoilé en mai et implanté en septembre.
Keep falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Nothing's worrying me. Thank you.
toute la pluie tombe sur moi, raindrops keep falling on my head. C'est interprété ici par Monsieur Roger Whittaker, qui fête ses 83 ans aujourd'hui, pièce qui n'est plus très très jeune, mais qui est toujours tout aussi agréable à écouter. C'était composé par Al David et Burt Bacharach dans le cadre du film Butch Cassidy and the Sundance Kid.
Merci Jean-Sébastien. On parle de cinéma, tiens, puisqu'on était à Butch Cassidy et Sundance Kid. On parle d'un film ici où on parle de bipolarité. Ça, c'est quand même pas un sujet évident. Louise Mo de Rio Souci se fend d'une critique dans Le Devoir extrêmement positive. Tenir tête des sommets et des abysses. Expérience intime du trouble affectif bipolaire qui les unit dans une formule hybride généralement habile, tenant tout à la fois du récit documentaire et de la franche confession dans un amalgame d'une générosité inouïe. À la barre de cette mise à nu, à la fois juge et parti, Mathieu Arsenault épate de retenue à la caméra comme au scénario. Comme dans En cavale, son précédent documentaire sur trois jeunes des centres jeunesse, le cinéaste s'autorise plusieurs pirouettes sans pour autant lâcher son fil narratif. Il raconte tout avec force détail, écoutant aussi beaucoup, attentif jusqu'à la monomanie. Une monomanie versant soleil, bien contrôlée, pas celle qui l'a mené des sommets jusqu'aux abysses. Mathieu Arsenault a vécu sa première psychose paranoïaque à 35 ans, alors qu'il pensait aborder un nouveau cycle d'abondance. Pressé par une voix impérieuse lui prêtant des pouvoirs de chaman, il quitte sa job, décaisse 15 000 $ de son REER et part pour la Californie où une grande révolution des esprits l'attend. Il laisse derrière sa fille Lou et son amoureuse Alix enceinte. Pour raconter sa psychose, Arsenault puise dans une imagerie riche, collant au plus près de ses confidences. Ajoutant là des filtres de couleurs, son obsession pour le rouge et les textures aura été dévorante, là des scènes décalées qui mettent en exergue l'exaltation des épisodes maniaques, il montre à quel point la décision de détruire chimiquement cette part divine de lui-même aura été difficile. En mettant sur la table sa propre psychose, Mathieu Arsenault scelle un pacte de transparence avec Frédéric Ménard-Aubin et Louis Parizeau qui décortiquent les leurs avec la même prodigalité. Grâce à eux, rarement aura-t-on eu accès avec autant d'éloquence au point de bascule menant de l'extase maniaque au vide de la dépression. Le tout est entrecoupé des témoignages de leurs proches qui réajustent le regard avec une sincérité désarmante. À 33 ans, tout sourit à Frédéric qui décide de cesser le lithium qu'elle prend depuis ses 20 ans. « En temps de manie, je ne me suis jamais trouvée folle, je me suis juste trouvée géniale », raconte la photographe en essayant de mettre des mots sur l'euphorie qui l'emportera bientôt. « Dans ma vie d'alors, une seconde, c'est une minute, c'est une heure, c'est une journée, c'est une semaine. T'avances dans cette vitesse-lumière-là, puis t'es en contrôle du monde entier, jusqu'à ce que tout se fissure. » Louis Parizeau, batteur pour les Sinners dans une autre vie, a lui aussi connu cette ivresse. « Je parlais à Dieu. Je me sens invincible », raconte-t-il. « Dans ce temps-là, tu souffres pas. T'es sur ton gros high, puis tu fly. » Et c'est irrésistible, précise Frédéric en proposant cette analogie. Imagine qu'on part tous dans la vie avec un cerveau tout noir. Tu peux y faire des petits trous pour voir des choses. Tu fais ton univers, pas l'univers, ton petit univers. Dans mon cas, j'ai voulu percer plein de trous dans mon cerveau pour voir plein de choses qui m'ont ébloui, qui m'ont brûlé la rétine. Le nécessaire dosage entre ombre et lumière que commande la maladie colle à la structure même de tenir tête, qui assume aussi un peu candidement sa part d'espoir. L'imbrication avec les témoignages des proches chaote bien un peu en raison d'un cadre qui aplatit l'ensemble. En surimpression, la narration ajoute heureusement un souffle qui émeut. Le dénuement des mots scalpel dont use le trio pour raconter la psychose fait le reste en tranchant le réel dans le vif, l'exposant comme rarement à l'écran. En chronique dans Le Devoir, Aurélie Langteau revenait sur la déclaration de Brian Mulroney. Vous rappelez la petite fille qui avait démissionné en Ontario. Alors, les petites filles. « Bien sûr, je suis consciente que l'ex-premier ministre Brian Mulroney a fait une gaffe mineure dimanche à Tout le monde en parle en qualifiant la députée franco-ontarienne Amanda Simard de petite fille et qu'il ne sert à rien de sortir le chalumeau pour chasser une mouche. D'ailleurs, des dizaines d'internautes se sont fait un devoir de me rappeler que j'étais moi-même une petite fille bien susceptible après que j'ai eu le malheur de tweeter sur le sujet. « Il faut comprendre, M. Mulroney, d'une autre époque, dit-on. Ce réflexe me semble pourtant tout à fait contemporain. Notez l'ironie. Sur le plateau ce soir-là se trouvait justement Catherine Fournier, qui venait de passer la semaine à esquiver l'étiquette d'adolescente irréfléchie qu'on tente de lui accoler depuis son départ du Parti québécois. Autrement, je pourrais vous inviter dans ma boîte courriel, où il ne se passe pas une semaine sans qu'un lecteur prenne la peine de m'écrire une critique qui, en dépit de son glaçage argumentaire, prend d'abord appui sur mon âge et mon air. » Lorsqu'on mobilise l'image de la petite fille, ce n'est généralement pas pour désigner une enfant, mais une jeune adulte dont l'assurance ou l'intelligence dérange. On la rabroue en la renvoyant à son enfance, l'expédiant ainsi tout au bas de la hiérarchie de la crédibilité. Culturellement, la petite fille évoque bien sûr l'univers de la candeur, de la pureté, mais aussi celui du caprice, du manque de contrôle de soi, de la faiblesse morale, de l'ignorance. La petite fille improvise, se laisse influencer par les autres. Elle n'a rien lu, et si oui, elle n'a rien compris. Même son potentiel sexuel est retenu contre elle, ou alors on la méprise précisément pour cela, sans l'admettre. Même l'envers de la petite fille est en colère. La première de classe n'accède pas à la crédibilité. Une fille à son affaire manque de personnalité. Une fille qui sort du rang manque de contrôle. On perd à tout coup. On se dit que le temps et l'expérience finissent par arranger les choses, mais une amie cette semaine s'interrogeait à juste titre. Y a-t-il quelque part sur le continuum entre la petite fille et la matante un moment où une femme est considérée comme une interlocutrice légitime? Il est à se demander si la présence publique des femmes ne suit pas un arc qui les fait passer directement du mépris à l'invisibilité. Qu'est-ce que ça change, me direz-vous, pour autant que vous agissiez? Du nerf, bien sûr. N'empêche, ce stéréotype légitime bien des choses dont on se passerait. On te coupe la parole, on remet puérilement en question tout ce que tu dis. On te hurle dessus au téléphone avant de te passer tendancieusement la main sur la taille dans un événement public. L'infantilisation sur le plan intellectuel, les belles façons dans les modalités, on te signale ta place. Et ça marche. Les petites filles, grandes comme petites, doutent. La revue Science publia en 2017 une étude démontrant que, dès le plus jeune âge, les filles associent la grande intelligence à l'autre sexe, si bien qu'elles délaissent les activités destinées aux enfants dits « brillants », pas pour moi. Et à force de rappeler aux petites filles qu'elles ont raison de douter d'elles-mêmes, on s'habitue à ce que leurs actions soient peu reconnues. Prenez le geste d'Amanda Simard. Sa décision de quitter son parti a dû exiger son lot de sacrifices. Or, ce n'était pas un effet de toge ni une désertion du combat politique, comme l'a laissé entendre M. Mulroney. Sa démission a provoqué un débat national sur le soutien à la francophonie minoritaire partout au Canada. Si elle s'était contentée de couper la poire en deux, de s'accorder sagement avec ses collègues, son geste aurait été politiquement beaucoup moins efficace. Est-il encore si difficile d'admettre que les femmes peuvent avoir un sens critique et un leadership aussi fort que celui des hommes? Je me dis qu'au moins cette posture a l'avantage de forger le caractère. Je lisais cette semaine « Qui sommes-nous pour être découragés? » un livre d'entretien avec Lorraine Gay, une militante bien connue des mouvements sociaux qui cumule 60 années d'engagement. Ce livre vaut le détour, notamment parce qu'il offre un point de vue privilégié sur les luttes communautaires et citoyennes des dernières décennies, mais aussi parce qu'il soulève une question essentielle. Qu'est-ce qui donne l'impulsion de l'engagement? Les détails biographiques sont révélateurs. Madame Gay raconte avoir été expulsée de l'école normale parce qu'elle était de ces petites filles qui s'organisent et posent beaucoup de questions. « Je n'étais pas si radicale », explique-t-elle, mais elle plaçait l'autorité devant ses contradictions. On traverse dans cet ouvrage une vie guidée par un sens de la justice inébranlable et par une extraordinaire éthique de la désobéissance. Voilà, ai-je pensé, ce que deviennent les petites filles qui se tiennent debout. Des battantes. Allez, il n'y a pas qu'à Vancouver que ça arrive. Un groupe militant revendique un nouvel acte de vandalisme commis jeudi avec de la peinture orange sur le monument érigé au centre-ville de Montréal en l'honneur du premier premier ministre du Canada, John A. Macdonald. Pauvre John A. Avant, il n'y avait que les pigeons qui s'intéressaient à lui. Et si vous n'avez pas assez de temps pour apprendre, sachez que l'hypnothérapie, ça recommence. Alors, on peut, semble-t-il, apprendre en dormant. Personnellement, j'y crois pas trop, mais bon, libre à vous d'employer vos heures de sommeil comme vous le voulez. Merci d'avoir été avec nous. Merci à Jean-Sébastien d'avoir mis en onde cette émission. Je rends ce micro à Hélène Denis qui sera là lundi. Merci à vous surtout d'avoir été des nôtres.